Bonjour à tous, merci beaucoup à toute l'équipe pour cette belle première partie de culte. Merci beaucoup. Nous allons continuer à lire dans le Nouveau Testament. Une première lecture dans l'Évangile selon Matthieu au chapitre 16 à partir du verset 13. Arrivé dans la région de Césarée de Philippe, Jésus interrogeait ses disciples. Au dire des hommes, qui est le Fils de l'homme? Ils dirent, pour les uns, Jean le Baptiste, pour d'autres, Élie, pour d'autres encore, Jérémie ou l'un des prophètes. Il leur dit, « Et vous, qui dites-vous que je suis ?» Prenant la parole, Simon-Pierre répondit, « Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. » Reprenant alors la parole, Jésus lui déclara, « Heureux es-tu, Simon, fils de Jonas, car ce n'est pas la chair et le sang qui t'ont révélé cela. » Mais mon Père qui est dans les cieux. Nous faisons une deuxième lecture dans l'Évangile selon Jean, au chapitre 9, quelques paragraphes de ce récit. D'abord, Jean, chapitre 9, versets 13 à 16. Jésus vient de guérir un aveugle de naissance. Je ne lis pas la totalité du récit, je prends au verset 13. On conduisit chez les pharisiens celui qui avait été aveugle. Or, c'était un jour de sabbat que Jésus avait fait de la boue et lui avait ouvert les yeux. À leur tour, les pharisiens lui demandèrent comment il avait recouvré la vue. Il leur répondit, « Il m'a appliqué de la boue sur les yeux, je me suis lavé, je vois. » Parmi les pharisiens, les uns disaient, « Cet individu n'observe pas le sabbat, il n'est donc pas de Dieu. » Mais d'autres disaient, « Comment un homme pécheur aurait-il le pouvoir d'opérer de tels signes ?» Et c'était la division entre eux. Un peu plus loin. Une seconde fois, les pharisiens appelèrent l'homme qui avait été aveugle et ils lui dirent, « Rends gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Il leur répondit, « Je ne sais si c'est un pécheur. Je ne sais qu'une chose. J'étais aveugle et maintenant, « je vois. » Ils lui dirent, « Que t'a-t-il fait? Comment t'a-t-il ouvert les yeux ?» Il leur répondit, « Je vous l'ai déjà raconté, mais vous n'avez pas écouté. » Pourquoi voulez-vous l'entendre encore une fois? N'auriez-vous pas le désir de devenir ses disciples, vous aussi? Les pharisiens se mirent alors à l'injurier et ils disaient, « Toi, tu es son disciple. Nous, nous sommes disciples de Moïse. Nous savons que Dieu a parlé à Moïse, tandis que celui-ci, nous ne savons pas d'où il est. » L'homme leur répondit, « C'est bien là, en effet, l'étonnant, que vous ne sachiez pas d'où il est, alors qu'il m'a ouvert les yeux. » Dieu, nous le savons, n'exauce pas les pécheurs. Mais si un homme est plein de piété et fait sa volonté, Dieu l'exauce. Jamais on a entendu dire que quelqu'un ait ouvert les yeux d'un aveugle de naissance. Si cet homme n'était pas de Dieu, il ne pourrait rien faire. Ils ripostèrent, « Tu n'es que péché, depuis ta naissance et tu viens nous faire la leçon ?» Et ils le jetèrent dehors. Jésus apprit qu'ils l'avaient chassé. Il vint alors le trouver et lui dit, « Crois-tu, toi, au Fils de l'homme ?» Et il lui de répondre, « Qui est-il, Seigneur, pour que je croie en lui ?» Jésus lui dit, « Eh bien, tu l'as vu, c'est celui qui te parle. » L'homme dit, « Je crois, Seigneur. » Et il se prosterna devant lui. Et Jésus dit alors, « Je suis venu en ce monde pour une remise en question, afin que ceux qui ne voyaient pas voient, et que ceux qui voyaient deviennent aveugles. » Les pharisiens qui étaient avec lui entendirent ces paroles et lui dirent, « Est-ce que par hasard nous serions des aveugles, nous aussi ?» Jésus leur répondit, « Si vous étiez des aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais à présent, vous dites, « Nous voyons. » Votre péché demeure. » Nous faisons une troisième lecture dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 3, et à partir du verset 20. Jésus vient à la maison et de nouveau la foule se rassemble à tel point qu'ils ne pouvaient même pas prendre leur repas. À cette nouvelle, les gens de sa parenté vinrent pour s'emparer de lui car ils disaient « Il a perdu la tête ». Et les scribes qui étaient descendus de Jérusalem disaient « Il a Belzéboul en lui ». Et « C'est par le chef des démons qu'il chasse les démons. » Il les fit venir et il leur disait en parabole, « Comment Satan peut-il expulser Satan? Si un royaume est divisé contre lui-même, ce royaume ne peut se maintenir. Si une famille est divisée contre elle-même, cette famille ne pourra pas tenir. Et si Satan s'est dressé contre lui-même. Et s'il est divisé, il ne peut pas tenir. Ça n'est fini de lui. Mais personne ne peut entrer dans la maison de l'homme fort et piller ses biens si d'abord il ne l'a pas ligoté, cet homme fort. Alors il pillera sa maison. En vérité, je vous déclare que tout sera pardonné aux fils des hommes et les péchés et les blasphèmes aussi nombreux qu'ils en auront proféré. Mais si quelqu'un blasphème contre l'Esprit Saint, il reste sans pardon à jamais. Il est coupable de péché pour toujours. Cela parce qu'il disait, il a un esprit impur. » Jusque-là, notre lecture. Jésus est venu pour faire une œuvre de salut. Et cette œuvre est une œuvre incessante, une œuvre épuisante. Aux yeux de ses proches, Jésus en fait trop, et il voudrait le préserver de s'épuiser. Certains pensent qu'il est vraiment agité, et certains vont jusqu'à le soupçonner de possession. Mais Jésus est venu pour sauver. Jésus est là, il agit. Sa présence et son action interpellent. Et sa présence et son action posent question, et pour certains font problème. Qui est celui-ci? Qui est cet homme? Chacun s'interroge, les disciples, la foule. Les réponses, chacun donne les siennes, nous l'avons vu. C'est un problème à résoudre pour chacun. C'est une œuvre qui pose problème, qui même est choquante, qui est même scandaleuse au lieu des scribes et des pharisiens qui vont très loin dans leur interprétation. Alors que toute l'action de Jésus est pour le bien, jusqu'à se donner totalement, chair et sang, alors que tout témoigne de sa qualité de fils de Dieu, et certains, même en dehors des disciples, le reconnaissent, comme Nicodème, « Personne ne peut faire les œuvres que tu fais si Dieu n'est avec lui », dit Nicodème à Jésus. Ici, face à sa présence, à sa personne et à son action, il y a toutes sortes d'opinions, toutes sortes d'incompréhensions, toutes sortes d'éloignements du cœur. Au plus extrême de cette opposition, il y a bien sûr cette accusation de possession qui est extrêmement grave. Et Jésus répond. Jésus répond avec une logique imparable. Si Satan est divisé contre lui-même, comment peut-il subsister? Et par un avertissement solennel. Ce matin, je ne me pencherai pas sur la réponse par rapport aux démons ou au péché contre le Saint-Esprit. Je voudrais simplement m'attacher à réfléchir à ces différentes opinions qui sont posées sur Jésus et à faire de cet épisode le point de départ d'une réflexion sur certitude ou incertitude. Nous avons ici un contraste dans la forme. Deux attitudes fondamentales sont à analyser. Le dire des hommes et le dire de Jésus. Le dire des hommes, dans les récits que nous avons lus, ce sont des affirmations. Des affirmations parfois même péremptoires. Classant l'autre, le rejetant, il disait ceci, il disait cela. Il est fou, il est insensé, il est même possédé par le démon. Il dire, ce qui s'exprime pour répondre à la question « Qui est Jésus ?» Et le dire de Jésus, au lieu de procéder par affirmation, procède le plus souvent par question. Si il en est ainsi, quelle est la conséquence ? Si Satan chasse Satan, comment peut-il subsister ? Et Jésus appelle à la réflexion. Il appelle à la réflexion dans la première partie du texte que nous avons lu et très souvent dans les paraboles. Lorsqu'il raconte ses histoires pour illustrer tel ou tel aspect de ce qu'il veut révéler de la vérité, il procède souvent par ses questionnements, par ses interrogations. Dans la parole du bon samaritain, par exemple, il fait intervenir plusieurs personnes pour secourir le blessé et il demande à ceux qui entendent cette parabole, alors lequel s'est révélé être le prochain du blessé? Il y a un contraste, bien sûr, il est important. Certitude ou incertitude, affirmation ou questionnement. Nous savons que le seul qui puisse être vraiment affirmatif, c'est celui qui connaît toutes choses. C'est Dieu, c'est Jésus. Les incertitudes, les doutes, les interrogations ne sont-elles pas par nature du côté des êtres humains dans leur approximation, dans leur difficulté à connaître, dans leur méconnaissance et surtout, bien sûr, dans leur situation de pécheur. Quelques mots donc maintenant sur le dire des hommes et sur les affirmations qui paraissent ici dans notre récit. Ici, quand il est question de savoir qui est Jésus, les réponses des personnes qui interviennent sont inspirées par leur propre fond, par leur propre connaissance, par leur propre origine, par eux-mêmes, et aussi par l'adversaire qui est derrière, surtout dans cette accusation de possession. Donc, ils se sont trompés. Ils ont dit des bêtises. Ce n'est pas seulement une erreur d'appréciation sur la personne de Jésus, mais c'est aussi une erreur de jugement sur les apparences. Et c'est une fausse perspective, ce qui est plus grave que simplement faire une erreur ponctuelle. Cette attitude est révélatrice. Je sais, je dis, c'est ainsi depuis le Jardin d'Éden. La première parole qui a retenti sur le monde en train d'être créé par Dieu, c'est que la lumière soit, et la lumière fut. Et l'autre parole qui vient après de celui qui est l'adversaire et l'ennemi de Dieu, le grand menteur, c'est « Dieu a-t-il réellement dit ?» Et c'est de là, évidemment, que découlent tous les doutes sur Dieu. Dans la perspective de la révélation biblique, nous avons là le schéma classique. L'être humain, naturellement, produit des assurances sur des choses qui ne sont pas sûres, qui ne sont pas vraies, qui ne sont pas solides. La révélation du péché par la parole de Dieu entraîne la perte de ses appuis et met à jour la fausse confiance. Elle dévoile la zone des incertitudes. Dans la nature humaine, il y a aussi cet autre aspect qui produit toutes sortes d'approximations et surtout le relativisme, bien connu de toujours, mais particulièrement à notre époque. Il n'y a rien de sûr, il n'y a rien sur quoi on puisse se fonder, on ne peut rien affirmer, chacun son idée, chacun son avis, on nage en pleine approximation et en pleine subjectivité. Dans l'Écriture, dans la foi biblique, on se fonde enfin sur ce que Dieu a dit. Et ce que Dieu a dit est le rocher sur lequel est bâtie la confiance. C'est la zone des certitudes. On est loin de cette zone marécageuse du doute, des remises en question permanentes, des changements incessants. On est dans une tranquille assurance. Nous avons là une vérité basique, fondamentale, c'est vrai. Mais attention, cette affirmation, cette manière de penser et de vivre demande une vue réaliste sur soi-même et sur les possibilités de glissement. Je m'explique. Est-ce que je mets en doute les certitudes de la foi? Bien sûr que non. Mais je veux simplement ce matin souligner que ces certitudes de la foi chrétienne, nous les vivons en être humain. Nous les vivons dans la réalité humaine, sur laquelle nous avons intérêt à avoir un regard réaliste. Car on peut glisser. Nous marchons par la foi, certains. Nous sommes certains de marcher par la foi. Mais nous marchons aussi par la vue, par nos sens, par notre sensibilité, par notre mentalité, par nos habitudes, par nos options et nos choix idéologiques. Quelques questions. Notre assurance est-elle en Dieu ou est-elle dans nos idées sur Dieu, nos conceptions de Dieu? La foi est-elle en Dieu ou en elle-même? Notre position notre christianisme et là encore nos options, nos interprétations. Nos certitudes sur la parole de Dieu, bien sûr, mais il y a aussi nos certitudes sur nos compréhensions de cette parole, nos interprétations. Et nous avons beaucoup d'exemples bibliques là-dessus. Dans ce que nous avons lu, il y avait les interprétations des pharisiens qui nous prodiguent leurs assurances à contresens. Il y a une valeur positive aux incertitudes. Je prends quelques exemples dans l'Ancien et dans le Nouveau Testament. Dans le livre des Chroniques, le roi Josaphat doit faire face à l'attaque des Moabites et des Ammonites. Et que dit-il, le roi Josaphat, dans cette circonstance ? Il prie Dieu et il lui dit ceci : nous sommes sans force devant cette multitude nombreuse qui s'avance contre nous. Et nous ne savons que faire. Incertitude. Nous ne savons pas quoi faire. Mais nos yeux sont sur toi. Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi, dit Josaphat à son Dieu. À l'inverse, nous avons des contre-exemples. Un contre-exemple, c'est par exemple le roi Saül. Au début, il a suivi le chemin de Dieu, et puis après, il en a dévié gravement. Et il a, pendant tout un temps, persécuté David, qui va le remplacer. Et pendant que le roi Saül persécute David, David s'enfuit et il se cache. Et voilà Saül qui tire Dieu de son côté. Saül fut informé de l'arrivée de David à Keïla et il dit « Dieu le livre entre mes mains, car il est venu s'enfermer dans une ville qui a des portes et des barres. » Saül pense que Dieu lui livre David, que Dieu livre David entre ses mains. Et pendant ce temps, David, lui, consulte l'Éternel et il va échapper, bien sûr, à Saül. Nous avons lu cet épisode de l'aveugle de naissance. Et nous avons vu comment ces pharisiens appellent une deuxième fois l'homme qui avait été aveugle et ils lui disent « Donne gloire à Dieu, nous savons que cet homme est un pécheur. » Autrement dit, dis-nous la vérité, ça ne peut pas être vrai ce que tu nous racontes, ou tu n'étais pas aveugle. Et cet homme leur répond « S'il est un pécheur, je ne le sais pas. Je sais une chose, c'est que j'étais aveugle et que maintenant je vois. » Là, il pouvait témoigner, lui. Les pharisiens ne le croyaient pas. Ils ont fait venir ses parents, etc. Ils cherchaient par tous les moyens à ce que cette guérison ne soit pas une réalité. Je sais une chose. J'étais aveugle et maintenant je vois. On peut, même en étant avec Jésus, en suivant son enseignement et son chemin, on peut se tromper dans ses affirmations. Je prends l'exemple bien connu de Pierre, qui, plein de bons désirs, mais s'illusionnant complètement sur ses capacités, dit à Jésus, « Seigneur, je suis prêt à aller avec toi en prison et à la mort. » Et Jésus sera obligé de lui dire, avant que le coq ne chante, tu m'auras renié. Si nous disons que nous sommes en communion, c'est un texte dans la première lettre de Jean, Si nous disons que nous sommes en communion avec lui et que nous marchions dans les ténèbres, nous mentons et nous ne pratiquons pas la vérité. Si nous disons que nous n'avons pas de péché, si nous disons que nous n'avons pas péché, nous ne disons pas la vérité. Celui qui dit, celui qui dit. Et puis un dernier exemple. C'est dans cette dernière lettre aux églises de l'Apocalypse, la lettre à l'église de Laodicée. Et le Seigneur envoie le messager pour dire à cette église, « Parce que tu dis, je suis riche, je n'ai besoin de rien, et parce que tu ne sais pas que tu es misérable, malheureux, pauvre, aveugle et nu. » Tu dis quelque chose qui n'est pas juste. Tu t'illusionnes complètement sur ta situation. Alors, ces certitudes de cette église de Laodicée, évidemment, sont des certitudes de suffisance aveugle et d'orgueil. Et cette église est en grave danger. Je voudrais maintenant, dans une deuxième partie, aborder le dire des chrétiens. J'ai déjà souligné que nous sommes chrétiens, mais nous sommes humains. Nous disons beaucoup de choses et il nous arrive de dire parfois des bêtises. Y a-t-il ici quelqu'un qui ne dit jamais de bêtises ? Ah, j'ai entendu quelque chose. Non. Nous ne savons pas tout, bien loin de là. Nous manquons de sagesse. Et il nous arrive d'avoir une excessive confiance en nous. Nous faisons des erreurs de jugement par inconséquence, par incohérence. Il nous arrive de ne pas nous poser assez de questions. Alors, peut-être qu'à ce stade de ce que je voulais partager avec vous ce matin, vous êtes en train de vous dire, mais qu'est-ce qu'il est en train de nous raconter ? Est-ce qu'il ferait l'éloge des incertitudes et de toutes les insuffisances de la connaissance ? Non, je ne fais pas l'éloge de l'incertitude. Je voudrais faire l'éloge de l'humilité, de l'authenticité, de l'honnêteté, de l'attitude vraie qui cherche à savoir où sont nos certitudes et où nous avons besoin de continuer à nous interroger. Je voudrais promouvoir la capacité de se remettre en question, de reconnaître nos erreurs et de nous en repentir. Et aussi, je voudrais dire que nous devons apprendre à vivre avec des incertitudes, sans être déstabilisés. Vous voyez que je rejoins par ce biais-là notre condition actuelle, où avec tous les problèmes du coronavirus, nous avons quand même vu s'agrandir la zone des incertitudes, des perplexités, même de ceux qui cherchent avec tous les atouts de la connaissance. Nous avons de la difficulté à vivre avec des incertitudes, sans être stabilisé. Pour ce qui est de la foi, nous revenons à cette double réalité qui est notre partage. D'un côté, nous avons des certitudes sur Dieu. Notre attitude en tant que chrétien est une attitude à deux composantes. Nous avons tous les exemples bibliques, nous avons celui de l'apôtre Paul. Certitude sur Dieu. Paul dit, je sais en qui j'ai cru. Je sais en qui j'ai cru. Et je sais qu'il n'y a qu'un seul évangile. Et l'apôtre Paul est entre les mains du Seigneur, celui qui aide à discerner, qui permet de décrypter les hésitations et les interrogations sur certaines interprétations qui font dévier de la vérité révélée, de la vérité biblique. Ça, c'est le premier volet. Le deuxième volet, Ce sont les incertitudes ou les hésitations sur le terrain par rapport à des questions pratiques. Et l'apôtre Paul, faisant écho à la parole que nous avons citée dans l'Ancien Testament, « Nous ne savons que faire, mais nos yeux sont sur toi », l'apôtre Paul dit par exemple aux chrétiens de Galatie, auxquels il doit rappeler que s'ils ont commencé par la foi, il ne faut pas finir avec la chair, il dit « Je ne sais pas comment m'y prendre avec vous ». Il avait des certitudes sur Dieu, bien sûr, mais il avait aussi dans la pratique de sa conduite de l'Église « Je ne sais pas comment m'y prendre avec vous ». Valoriser les questions qui nous amènent à plus de sagesse. Lorsque les disciples ont rendu témoignage à Jésus, nous avons ces récits du début du livre des Actes des Apôtres où ils témoignent en faveur de Jésus. Et ils sont devant le Sanhédrin. Et dans le Sanhédrin, il y en a qui veulent les mettre à mort. Il y a un sage dans cette illustre assemblée des pharisiens qui s'appelle Gamaliel. Et Gamaliel demande à ceux qui veulent mettre à mort les apôtres, il leur dit « Réfléchissez. Si cette entreprise que vous combattez vient des hommes, elle se détruira d'elle-même. Mais si elle vient de Dieu, vous ne pourrez pas la détruire. » Voilà la sagesse qui demande la réflexion pour savoir comment se comporter. Nous devons présenter l'Évangile avec ces deux aspects. Les certitudes sur Dieu, sur la foi, sur la révélation biblique. Et laisser l'espace pour les questions et pour les interrogations. Et je termine par une réflexion qui me paraît essentielle pour nous. Apprendre à distinguer les deux domaines, celui des certitudes et celui des interrogations, celui de Dieu, de sa révélation, de la parole, de l'écriture, de la vérité, les positions de foi, les certitudes de la foi. Et puis, la zone où c'est l'être humain et sa responsabilité de comprendre, de discerner, de décrypter. L'écoute, la compréhension, l'interprétation, la traduction, l'application des vérités de la parole à la vie de tous les jours. Discernement d'abord de tout ce qui nous est raconté, tout ce que nous entendons. Jugement, appréciation, discernement des êtres, des vérités, des paroles qui nous sont données. Nous avons, par la grâce de Dieu, cette grande base qui est la révélation biblique et cette grande certitude qui est le don du Saint-Esprit. Il nous faut apprendre de là pour juger de la différence entre les apparences et la réalité, entre le visible et l'invisible, entre ce que nous aurions tendance naturellement à penser et ce qui est corrigé par ces éléments de la foi. C'est ce qu'on appelle dans l'Écriture grandir en Christ, avancer dans la maturité, grandir dans la connaissance de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Dans le domaine de la marche par la foi, de l'action, du comportement, de la conduite, des assurances, mais aussi cette ouverture permanente pour écouter, pour avoir le privilège aussi, dans la communauté chrétienne, d'entendre les autres nous apporter leur témoignage. Il est question d'édification mutuelle. Voilà quelques éléments qui viennent des textes que nous avons lus, me semble-t-il, et que je voudrais mettre devant nos yeux. Mais je voudrais terminer ce que je voulais partager avec vous ce matin par la lecture de cette parole que nous avons dans la lettre aux Éphésiens au chapitre 4. Ce sera ma conclusion. Éphésiens chapitre 4. Je vous encourage donc dans le Seigneur, dit l'apôtre, moi qui suis prisonnier, accordez votre vie à l'appel que vous avez reçu, en toute humilité et douceur, avec patience, supportez-vous les uns les autres dans l'amour. Appliquez-vous à garder l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps, et un seul esprit, de même que votre vocation vous a appelé à une seule espérance, un seul Seigneur, une seule foi, un seul baptême, un seul Dieu et Père de tous, qui règne sur tous et agit par tous et demeure en tous. La zone, la base, les certitudes de la foi. À chacun de nous, cependant, la grâce a été donnée selon la mesure du don de Christ, d'où cette parole. Monté dans les hauteurs, il a capturé les prisonniers, il a fait des dons aux hommes, il est monté. Qu'est-ce à dire, sinon qu'il est aussi descendu jusqu'en bas sur la terre. Celui qui est descendu est aussi celui qui est monté plus haut que tous les cieux, afin de remplir l'univers. Et c'est lui qui a donné certains comme apôtres, d'autres comme prophètes, d'autres encore comme évangélistes, d'autres enfin comme pasteurs et chargés de l'enseignement, afin de mettre les saints en état d'accomplir le ministère pour bâtir le corps de Christ. Jusqu'à ce que nous parvenions tous ensemble à l'unité dans la foi et dans la connaissance du Fils de Dieu, à l'état d'adulte, à la taille du Christ dans sa plénitude. Développement, croissance, perfectionnement, maturité. Ainsi, nous ne serons plus des enfants, ballottés, menés à la dérive, à tout vent de doctrine, joués par les hommes et leur astuce à fourvoyer dans l'erreur, mais confessant la vérité dans l'amour, nous grandirons à tous égards vers celui qui est la tête, Christ. Et c'est de lui que le corps tout entier, coordonné et bien uni, grâce à toutes les articulations qui le desservent, selon une activité répartie à la mesure de chacun, réalise sa propre croissance pour se construire lui-même dans l'amour. Amen.